sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 28 mai, Chérubin Dorcy, à Washington, accompagné de Morgane Guiriec. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, retombée de la cuisante défaite de l'armée malienne à Kidal. Le ministre de la Défense vient de démissionner.
Avant sa démission, Soumaïlou Boubé Maïga a eu un entretien avec le président de la République du Mali. Selon certaines sources, les chefs de l'État et son ministre de la Défense ne se sont pas compris.
En République centrafricaine, l'accalmie a été de courte durée, notamment dans les 3e, 5e et 6e arrondissements de Bangui.
Ces combats ont éclaté suite à l'assassinat dimanche de 3 jeunes musulmans par des hommes assimilés aux anti-Balaka.
Ici aux États-Unis, Barack Obama définit sa politique étrangère pour ses dernières années au pouvoir. Et les États-Unis pleurent le départ de Maya Angelou, poète, auteur et dramaturge. Nous aurons bien sûr les sports et la musique en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
Au Mali, le ministre de la Défense, Soumaïlou Boubé Maïga, a été remplacé par Ban Dao, un militaire à la retraite. Ce changement dans le cabinet de Moussa Mara intervient suite à la défaite de l'armée malienne à Kidal face aux groupes armés, dont le MNLA. Le point avec Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Avant sa démission, Soumaïlou Boubé Maïga a eu un entretien avec le président de la République du Mali. Selon certaines sources, les chefs de l'État et son ministre de la Défense ne se sont pas compris. Soumaïlou a préféré quitter le gouvernement. Le nouveau ministre de la Défense et des anciens combattants s'appelle Ban Dao. Il a 60 ans, ancien colonel-major. Il s'occupait de sa ferme après sa retraite de la vie militaire il y a 3 ans. Ban Dao est de la promotion 73 de l'école militaire interarmes du Mali. Il a été chef d'état-major de l'armée de l'air, chef d'état-major adjoint de la garde nationale, directeur de l'équipement des armées. L'ancien aide de camp de Moussa Traoré a aussi été commandant de base, entre autres. Homme de décision, il aide et conseille qu'il ne faut pas laisser trop de dossiers sur la table avant de rentrer à la maison. Le grand homme, comme l'appellent ses intimes, a pris fonction officiellement ce mercredi 28 mai 2014. Au titre de ses décorations, il est médaillé de mérite militaire, chevalier de l'ordre national. Ban Dao est marié, père de 2 enfants. Il parle bamana, français, russe et anglais. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
À Bangui, après une accalmie relative, des tirs à l'arme lourde et légère ont de nouveau secoué hier et aujourd'hui les 3e, 5e et 6e arrondissements de la capitale. Le point avec Idriss Fall.
Le calme était revenu hier après-midi, mais les tirs ont repris au milieu de la nuit et se sont poursuivis encore aujourd'hui. Il s'agit d'affrontements entre anti-Balaka et des musulmans armés du PK5. Ces combats ont éclaté suite à l'assassinat dimanche de 3 jeunes musulmans par des hommes assimilés aux anti-Balaka. Selon l'abbé Jonas de la paroisse Notre-Dame de Fatima, dans le 6e arrondissement, les tirs ont semé la panique sur le site des déplacés de son église. Cyril Benham, habitant du 3e arrondissement, déplore ce regain de violence.
On a vécu un moment très dur parce qu'il y a eu des tirs sans cesse et ça a traumatisé la population et les gens ont quitté le quartier pour aller se réfugier dans les ledgers. Nous, on est fatigués. On en parle tous les jours, la radio, partout. Rien ne change. Même la Miska qui est là, les Sangaris, rien ne change.
Le président congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur dans la crise, a de nouveau réitéré son appel au dialogue entre tous les Centrafricains pour sortir du cycle de violence.
Après de longs mois d'attente et de controverses, 31 enfants congolais adoptés par des familles italiennes sont enfin arrivés aujourd'hui à Rome à bord d'un avion affrété par le gouvernement italien. Kinshasa avait bloqué leur départ après la découverte d'abus. Jacques Aristide.
Un dénouement heureux ce mercredi dans une affaire qui fait polémique depuis décembre dernier. D'après le ministère italien des Affaires étrangères, le gouvernement congolais avait suspendu les procédures en raison d'irrégularités dans les dossiers d'adoption soumis par d'autres pays comme la France et les États-Unis. Kinshasa avait notamment décelé une demande soumise par un couple homosexuel, alors que la République démocratique du Congo s'est énergiquement élevée contre toute adoption d'enfants africains par des couples du même sexe, d'où sa décision de passer au crible toutes les autres requêtes étrangères. Pour rassurer le gouvernement de Joseph Kabila, Rome avait même dépêché en RDC la ministre italienne de l'intégration, Cécile Kyenge-Cachetou, elle-même d'origine congolaise. Mais il aura également fallu l'intervention personnelle du Premier ministre italien Matteo Renzi pour débloquer la situation et faire que les 31 petits Congolais, déjà devenus italiens, retrouvent leurs parents adoptifs pour une réunion de famille longtemps attendue.
Le chef de l'armée somalienne a échappé à une explosion à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. Il s'agit apparemment d'un attentat à la bombe. Les forces de sécurité disent que la déflagration a eu lieu au passage d'un convoi de blindés transportant le général Dahir Adan Elmi. L'attaque n'a pas été revendiquée. Près de 30 personnes ont été arrêtées.
Washington a demandé aux ressortissants américains de quitter immédiatement la Libye, qui risque de basculer dans la guerre civile. Issa Napon.
Les États-Unis appellent tous les ressortissants à quitter immédiatement la Libye. Le département d'État a lancé cet appel suite à une attaque contre le tout nouveau Premier ministre libyen Ahmed Mitig. Il vient à peine d'être installé dimanche par le Parlement et a échappé mardi à une tentative d'assassinat. C'est dans ce contexte que le leader du groupe djihadiste Ansar al-Sharia, Mohamed al-Zahawi, a mis en garde les États-Unis contre toute ingérence et a menacé le général à la retraite Khalifa Haftar pour son offensive contre les islamistes. Le chef d'Ansar al-Sharia a accusé Washington de soutenir le général Haftar. En septembre 2012, l'attaque du consulat américain de Benghazi avait coûté la vie à 4 citoyens américains, dont l'ambassadeur Christopher Stevens. Depuis, selon le département d'État, le personnel est réduit à l'ambassade et les moyens sont limités pour aller secourir des citoyens américains en Libye.
Présidentielle égyptienne, les bureaux de vote étaient ouverts aujourd'hui pour une journée supplémentaire. Le gouvernement tente ainsi de stimuler la participation des électeurs à ce scrutin qui devrait être largement favorable à l'ancien chef de l'armée Abdel Fattah el-Sissi. Une forte participation est considérée comme essentielle à la légitimité d'el-Sissi qui cherche un plébiscite.
Le ton monte au Mozambique. Les rebelles de la RENAMO avertissent que le pays pourrait plonger dans un conflit de plus grande ampleur si les forces gouvernementales continuent d'avancer vers le repère de son chef historique, Afonso Daklama, qui est ressorti récemment pour s'inscrire sur les listes électorales. L'ancienne guérilla, devenue principale force de l'opposition après 16 ans de guerre civile, réclame un meilleur partage du pouvoir et accuse le parti au pouvoir de s'accaparer les richesses du pays.
Les États-Unis ont levé toutes les restrictions sur l'aide directe à Madagascar. Le département d'État explique la mesure en raison du succès des élections de 2013 et de l'installation d'un nouveau gouvernement après 4 années de crise politique. Suite au coup d'État de 2009, les États-Unis avaient gelé une partie de leur aide à la Grande Île.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Barack Obama a fait savoir que l'isolationnisme n'est pas une option pour les États-Unis, mais que tous les problèmes ne nécessitent pas une solution militaire. C'est la ligne directrice que le chef de l'exécutif américain souhaite donner à sa politique étrangère pour les dernières années au pouvoir. C'était pendant son allocution devant la promotion sortante de la prestigieuse américaine Académie militaire de West Point. Jean-Roger Billon.
Monsieur Obama a proposé un fonds de 5 milliards de dollars pour aider les pays à lutter contre le terrorisme et à augmenter le budget du renseignement militaire, les opérations spéciales et d'autres activités. Pour le président Obama, le terrorisme reste la menace la plus directe pour la sécurité américaine et il a appelé à un partenariat avec les pays où les réseaux terroristes cherchent un point d'ancrage. Il a souligné que les États-Unis ne transigeront jamais lorsqu'il s'agit de protéger le pays et le peuple américain. Mais lorsque des questions d'intérêt mondial sont en jeu et qu'ils ne constituent pas une menace directe pour les États-Unis, l'option militaire doit demeurer en dernière ligne. Le chef de l'exécutif américain a souligné que l'Amérique est la seule nation indispensable dans le monde. Il a promis de redoubler d'efforts pour soutenir les voisins de la Syrie, la Jordanie, le Liban, la Turquie et l'Irak et de travailler avec le Congrès pour accroître le soutien à ceux de l'opposition syrienne qui offrent la meilleure alternative face aux terroristes et à un dictateur brutal. En ce qui concerne l'Ukraine, M. Obama a déclaré que les États-Unis ont fortement contribué à isoler rapidement la Russie.
Le président russe Vladimir Poutine se rendra à Paris la semaine prochaine pour discuter de la situation en Ukraine avec son homologue français François Hollande. Ce sera la première rencontre officielle entre Poutine et un dirigeant occidental depuis le début de la crise en Ukraine. Le président Barack Obama, le premier ministre britannique David Cameron et la chancelière allemande Angela Merkel seront en France au même moment, mais un assistant de M. Poutine a dit qu'aucune rencontre n'est formellement prévue avec ces trois leaders.
Aucun combattant de la Tchétchénie n'a été envoyé dans l'est de l'Ukraine pour soutenir les séparatistes. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le dirigeant de cette région russe. Dans une note publiée sur Instagram, Ramzan Kadyrov dément les informations du Financial Times de Londres, parlant de la présence d'une unité tchétchène à Donetsk.
En Thaïlande, l'armée essaie de calmer les craintes relatives à la détention de plusieurs membres de l'ancien gouvernement et de personnalités de l'opposition. Selon un porte-parole, 253 leaders politiques, activistes, journalistes et intellectuels ont été convoqués par le conseil militaire, mais la plupart d'entre eux, soit 124, ont été remis en liberté. 76 sont encore en détention et 53 n'ont pas répondu à la convocation. Quelques rassemblements continuent à Bangkok, malgré l'interdiction imposée depuis le coup d'État.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a mis le fugitif Edward Snowden au défi de rentrer aux États-Unis pour répondre aux accusations d'espionnage auxquelles il fait face. Snowden a reçu l'asile en Russie après avoir divulgué de nombreux documents secrets à la presse. Lors d'un entretien télévisé, Snowden soutient qu'il a été contraint de rester en Russie parce que Washington a annulé son passeport. John Kerry qualifie cette explication de stupide.
Enfin, savez-vous qu'aux États-Unis, un PDG gagne maintenant, écoutez bien, 257 fois le salaire de l'employé moyen? En 2009, l'écart était de 181. Selon un sondage de l'Associated Press, les salaires des chefs d'entreprise, qui avaient chuté durant la récession de 2008-2009, ont augmenté durant les quatre dernières années. Un autre sondage du Wall Street Journal révèle que le principal PDG a gagné près de 77 millions de dollars l'an dernier. Voilà pour le journal. Il est 18h42 en temps universel, 14h42 ici à Washington. Chez Robert Orsil, en compagnie de Morgane Guiriec, vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Nous l'avons dit au journal, Morgane, le ministre malien de la Défense a démissionné hier soir.
Oui, il a été remplacé par un colonel-major de 64 ans à la retraite du nom de Ban Dao. Connu pour sa rigueur, le nouveau ministre de la Défense a servi au niveau de l'armée comme chef d'état-major général de l'armée de l'air. Sa nomination fait suite à la démission de son prédécesseur, Kassim Traoré.
Dans les rues de Bamako, c'est la démission de Soumaïlou Boubé Maïga, ministre de la Défense, qui alimente les causeries. Tout le monde y va de son explication.
C'est Bachil Ibrahim. Bon, en tout cas, la démission de Boubé Maïga, moi quand même, je n'ai pas content. Vraiment, je n'arrive pas à accepter son démission. Voilà, tout ce que je veux dire. Parce que Boubé Maïga, il maîtrise très bien dans l'armée. Donc sa démission, vraiment, pour moi, ça va provoquer quelque chose dans l'armée.
Soumaïlou Boubé Maïga devrait quitter son poste il y a longtemps. Ousmane Koulibaly, sociologue.
Je crois qu'il a très bien fait de démissionner. Sinon, pour ne pas dire même qu'il a un peu pris des retards par rapport à sa démission, parce que dans tout pays sérieux, lorsque des phénomènes de ce genre se produisent, les responsables doivent automatiquement se désigner. Donc, l'intention de l'ensemble de la majorité des populations maliennes était qu'il démissionne. C'est-à-dire que ça va même donner beaucoup plus de crédibilité à sa personne.
Pour les étudiants maliens, la démission de Soumaïlou Boubé Maïga est salutaire, car il est rare de voir un ministre malien démissionner.
À mon avis, moi je pense que c'est une très belle initiative de sa part, parce que vu l'état dans lequel nous vivons aujourd'hui et vu l'évolution de la situation dans la 8e région administrative du Mali, il fallait ça. Et les autres départements concernés par la situation devraient en faire autant.
En tant que ministre de la Défense, et qu'il refuse d'aller voir ses troupes à Kidal, quelles qu'en soient les conditions, et le Premier ministre a pris le risque, sachant bien qu'il pouvait mourir, il est allé à Kidal, quelles qu'en soient les conséquences qui en sont survenues, il est quand même allé sur le terrain voir ses troupes qui sont des Maliens, eux aussi, ils ont laissé leur famille et ils se sont rendus dans une zone de guerre.
Vraiment, j'ai apprécié la démission de Soumaïlou Boubé Maïga parce que la plupart de la population demandait sa démission pour que le gouvernement de l'IBKP puisse être fort, quoi, parce qu'il disait que Soumaïla Boubey Maïga est un ancien membre du gouvernement, donc il ne pouvait pas faire l'affaire du Mali.
L'une des raisons de cette démission de l'ancien ministre de la Défense est l'affrontement meurtrier qui a eu lieu à Kidal entre les rebelles et les forces armées du Mali. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Nous vous parlions de ces enfants congolais qui ont pu ce mercredi rejoindre leur famille adoptive en Italie après plusieurs mois d'attente, un délai dû à la décision de la Direction générale de migration de suspendre l'adoption internationale pour une durée de 12 mois. On y revient, Morgane.
La DGM a expliqué avoir reçu des informations sur le trafic d'enfants adoptés en RDC. D'autres ont été abandonnés par leurs parents adoptifs ou revendus à d'autres personnes, pour la plupart homosexuels, selon l'organisme congolais. Des cas similaires d'irrégularités ont aussi été signalés dans d'autres pays africains, ce qui pousse la société civile à réclamer des adoptions internationales plus éthiques. Et Jacques Aristide a contacté Job Nkuna, directeur adjoint de l'ONG congolaise Pax Junior.
La RDC soutient que les candidats adoptants soient accompagnés et encadrés par les OAA, entendez les organismes agréés d'adoption dans leur pays d'origine. Donc on ne peut pas, de manière individuelle, venir en RDC adopter un enfant. Il y a des enfants qui peuvent être présentés au tribunal comme n'ayant pas des parents. Il y a eu aussi les cris d'alarme poussés par certains enfants adoptés, donc devenus adultes, devenus majeurs. Ils ont poussé certains cris de détresse sur une certaine maltraitance dont ils sont l'objet dans différents pays où ils ont été adoptés. Et d'ailleurs, au mois d'avril dernier, il y a eu une dame belge qui a été d'ailleurs condamnée à 6 mois de service pénal principal pour tentative de déplacement illégal d'un enfant à l'étranger.
On a également évoqué des cas de racisme.
Effectivement. Et je tiens également à dire qu'il y a une certaine montée du trafic d'êtres humains dans certains pays occidentaux. Un tel phénomène peut aussi constituer un frein à l'adoption internationale. Malheureusement, pour les cas de la RDC, l'adoption nationale qui devrait être promue, qui devrait être vulgarisée et encouragée, n'est pas encore démise. Parce que l'adoption internationale est un moyen de dernier recours. Elle est subsidiaire à l'adoption nationale.
Des pays occidentaux ont accepté l'adoption par des couples homosexuels. La RDC réprouve-t-elle l'adoption d'enfants africains par des couples de même sexe?
Deux lois qui réglementent l'adoption sont claires. Donc, les célibataires, les couples de même sexe ne peuvent pas avoir, n'est-ce pas, accès à l'adoption d'enfants en RDC. Et ce n'est pas pour beaucoup de pays africains. Généralement, moi, je reçois beaucoup de demandes d'avis et la RDC n'encourage pas ces gens d'adoption. Donc, c'est strictement interdit. Les couples adoptants doivent être mariés, couples hétérosexuels, se marier depuis au moins 5 ans.
Que préconisez-vous pour arrêter les dérives, pour éviter les dérives de l'adoption d'enfants africains?
Les dirigeants africains doivent rigoureusement respecter la procédure légale donc, qui est d'application dans chaque pays. Il est souhaitable que l'enfant soit placé dans un milieu qui lui est proche sur le plan culturel. Donc il faudrait que les dirigeants africains puissent promouvoir l'adoption nationale. Et il faudrait également prendre des mesures sur le suivi des enfants adoptés. Ça, c'est fondamental. Depuis les bas âges jusqu'à 18 ans. Et il faudrait que les autorités des deux pays puissent pouvoir entretenir une collaboration étroite comme les recommande la Convention de l'AE qui réglemente l'adoption au plan international.
Job Nkuna, qui s'occupe des questions relatives à l'adoption internationale au sein de l'ONG Pax Juniors. Il était joint à Kinshasa.
Au micro Robert Daguillard. Cette semaine, Washington Forum, l'émission débat de la VOA, est consacrée au traumatisme psychologique. Causes, symptômes, traitements. Comment les personnes atteintes de traumatisme vivent-elles leurs conditions dans vos pays respectifs? Quel rôle jouent les conflits, les catastrophes naturelles ou tout bonnement les conditions de vie difficiles? Écrivez-nous et témoignez. Washington Forum, comme toujours, c'est jeudi à 19h TU sur la Voix de l'Amérique.
Une grande dame de la littérature américaine s'en est allée. Maya Angelou, poète, auteur et dramaturge, s'est éteinte aujourd'hui à son domicile en Caroline du Nord. Nathalie Barge. Né en 1928 à Saint-Louis dans le Missouri, Maya Angelou a passé la majeure partie de son enfance avec sa grand-mère dans l'Arkansas. Pour les Noirs dans le sud des États-Unis, c'était des années de ségrégation raciale et de pauvreté. Ce qui rendait sa vie supportable, selon elle, c'était les histoires, les chansons et la sagesse populaire transmise d'une génération à l'autre. En somme, l'art de la vie.
The church I belonged to was even smaller than any aspiration in the town.
L'église à laquelle j'appartenais était encore plus petite que toute aspiration dans la ville. Lorsque tous les membres étaient là, nous étions 32 personnes en tout. Et pourtant, dans cette église, j'ai appris tant de choses sur le pouvoir de l'art pour aider les êtres humains à transcender presque tout.
Sa carrière littéraire a commencé lorsque l'écrivain James Baldwin et d'autres amis l'ont invité à écrire ses histoires d'enfance. En 1969, elle publie le premier volume de son autobiographie intitulé « Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage ». D'autres biographies ont suivi, ainsi que des essais, poésies, pièces de théâtre et scénarios. Ses écrits ont inspiré les étudiants et les présidents. Elle a été invitée à lire un poème à l'investiture du président Bill Clinton en 1993.
Here.
Aujourd'hui, en cette nouvelle journée, vous pouvez gracieusement regarder devant et dans les yeux de votre sœur et dans le visage de votre frère, votre pays, et dire simplement, très simplement, avec espoir, bonjour.
En 1994, Nelson Mandela a lu le poème de Maya Angelou, Still I Rise, lors de son investiture en tant que président de l'Afrique du Sud. Bien qu'elle n'ait jamais été à l'université, Maya Angelou a reçu plus de 30 doctorats honorifiques, la médaille nationale des arts et la médaille présidentielle de la liberté. En annonçant sa mort à 86 ans, l'université Wake Forest, où elle a enseigné pendant 30 ans, l'a citée comme un trésor national dont la vie et les enseignements ont inspiré des millions de personnes dans le monde.
Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. J'étais un espion. Cette nouvelle révélation de l'ancien contractuel de la National Security Agency, Edward Snowden, suscite des remous dans la classe politique américaine, Camille Gros-Didier.
Dans une interview avec Brian Williams de la chaîne NBC TV, Edward Snowden a répondu à ses critiques. Loin d'avoir été, comme il l'affirme, un petit analyste de rien du tout, Snowden s'est présenté comme un espion qui occupait officiellement un poste qu'il n'avait pas et s'était même vu affublé d'un nom qui n'était pas le sien. Snowden, qui s'exprimait à Moscou où il s'est réfugié, a ajouté «
I've worked for the National Security Agency undercover overseas.
J'ai travaillé pour la CIA sous couverture à l'étranger. J'ai travaillé pour l'Agence nationale de sécurité sous couverture à l'étranger. J'ai travaillé pour le renseignement militaire, le DIA, en tant qu'enseignant à l'Académie du contre-espionnage, où j'ai cultivé des sources et des méthodes pour assurer la sécurité de nos renseignements et de nos gens dans les environnements les plus hostiles et dangereux au monde », a dit Snowden dans cet entretien qui doit être diffusé in extenso mercredi soir. Snowden a disparu en 2013 après avoir révélé à la presse l'ampleur des programmes de surveillance de la NSA. Réagissant à ces propos, le secrétaire d'État américain a souligné qu'il devrait être un homme et rentrer aux États-Unis où il est recherché pour espionnage. Pour John Kerry, Snowden reste celui qui a trahi son pays, lui causant un tort irréparable.
Bagassi Koura en studio pour les sports. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Plein feu sur le mondial.
Oui, et on va commencer donc par les matchs amicaux. La Tunisie qui est allée s'imposer à Séoul face à la Corée du Sud 1-0 grâce à un but de Zouer Dawadi. C'était dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde de l'équipe coréenne, la Tunisie n'étant pas qualifiée. Et donc, Chourbain, d'autres résultats de matchs de préparation. Pour leur premier match de préparation en vue de la Coupe du Monde, les États-Unis sont difficilement venus à bout de l'Azerbaïdjan 2-0 au Candlestick Park de San Francisco grâce à des buts de Pogba donc de Giroud et de Rémy. La France a facilement disposé hier de la Norvège 4-1.
Il faut dire que selon l'AFP, une association allemande de prévention des drogues a dénoncé, Bagassi, la vente de boissons alcoolisées dans les stades brésiliens pendant la Coupe du Monde.
Oui, cette association se plaint donc de la présence de l'alcool dans les stades et compte donc saisir la FIFA pour qu'il n'y ait pas d'alcool pendant la prochaine Coupe du Monde.
Chacun a droit à ses prédictions pour le mondial. Que pensent les banquiers, Bagassi?
Oui, les banques américaines Goldman Sachs et italiennes UniCredit, davantage connues pour leurs analyses financières que sportives, pronostiquent une victoire du Brésil à la Coupe du Monde grâce à des modèles statistiques sophistiqués. Le modèle prévoit que le Brésil, l'Allemagne, l'Argentine et l'Espagne atteindront les demi-finales. On n'y voit pas d'équipe africaine et le Brésil battra l'Argentine en finale. C'est ce que prévoit donc Goldman Sachs dans son rapport publié ce mercredi. Pour UniCredit, une banque italienne, l'Amérique du Sud sera en force dans le dernier carré puisque 3 des 4 demi-finalistes seront latino-américains, a estimé UniCredit, plaçant l'Uruguay à la place de l'Espagne dans son étude également dévoilée ce mercredi.
Et pour terminer rapidement, la NBA.
Oui, hier soir, les Thunder d'Oklahoma City ont égalisé avec les Spurs de San Antonio 2-0, deux victoires partout en battant donc les derniers 105-92. Mais la victoire du Thunder mardi rappelle, Chirubin, la finale de conférence de 2012 lorsque menée 2-0 par les Spurs, les mêmes Spurs, Oklahoma City avait aligné 4 victoires lors des 4 matchs suivants pour décrocher le droit d'affronter Miami en finale NBA. Vivement que l'histoire se répète.
Non, l'histoire ne va pas se répéter. Au moins, je l'espère, Bagassi. Merci.
Après les sports, la musique, comme tous les soirs avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Grande nouvelle pour les fans de Kid de Minneapolis. Prince revient en effet sur scène. Il sera en France pour 2 concerts exceptionnels au Zénith, organisés tous deux le dimanche 1er juin. La légende de la pop fait en effet toujours preuve d'un esprit très créatif quand il s'agit d'organiser des concerts. Nous l'écoutons ce soir dans Fall in Love Tonight.
You know I didn't even care.
Voilà, Prince, Fall in Love Tonight. Merci Roger pour ce morceau. Roger Muntu, hein, que vous retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show.
Et c'est sur cette note que prend fin Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Joselle Morissin a dirigé la mise en onde. Wayne Shorter était à la console technique. Laissez-nous vos messages sur la page Facebook de la Voix de l'Amérique. C'était en votre compagnie, chez Robin Lorsil
et Morgane Guiriec.
À bientôt.